La première FM de Tahiti présente les flashs et journaux d'Europe 1. L'essentiel des infos nationales et internationales. Du lundi au vendredi à 5h, 7h, 9h, 16h et 18h. Avec American Express sur Radio 1. Radio 1, Territorial 2018. Les grands débats.
Et en direct sur Radio 1 et Thierry FM, les grands débats. Premier rendez-vous avec Antoine Samoyau et ses invités.
Et on reprend l'antenne donc avec notre rendez-vous politique des territoriales ce midi, les grands débats de Radio 1 et Thierry FM. Je vous le disais il y a quelques minutes, chaque vendredi jusqu'au premier tour, deux représentants des 6 listes en lice pour les territoriales viendront défendre leur programme. Et ce midi donc, sans plus attendre, on démarre avec Jérôme Gazior de l'UPR et Thierry Luartel de Teora Api Oporinetia, la liste menée par Marcel Touyani. Je vais vous demander, et tout d'abord à vous Jérôme Gazior, de vous présenter en quelques secondes pour expliquer qui vous représentez, qui vous êtes exactement et quelles sont les grandes lignes de votre liste.
D'accord, donc moi je m'appelle Jérôme Gazior, j'ai 42 ans, je suis marié, deux enfants, je suis chef d'entreprise, principalement dans la finance et dans l'immobilier. Nous avons une liste de larges rassemblements composés de qui représentent en fait assez fidèlement la Polynésie, avec à la fois des jeunes et des gens plus expérimentés, des politiciens, des anciens politiciens, toutes les catégories socio-professionnelles, des gens qui n'ont pas d'emploi, des commerçants, des artisans, des personnes impliquées culturellement. Et notre objectif est d'avoir un large rassemblement pour gérer les urgences principales du pays, et notamment la pauvreté qui se déploie de plus en plus à une vitesse phénoménale, avec ce seuil de 55% des personnes en dessous du seuil de pauvreté.
Thierry Luartel, vous êtes le secrétaire général de Teora Api Oporinetia, la liste de Marcel Touyani.
Oui, bonjour. D'ailleurs, je tiens à saluer Jérôme et les auditeurs, et bon appétit à vous tous. Oui, donc je suis secrétaire général de Teora Api avec Marcel. La liste qui a été composée, pour moi, reflète l'idée derrière le mouvement, derrière le parti, hein, un changement qui est destiné d'amener une autre façon de penser avec une équipe à la fois jeune, mais aussi avec des anciens qui apportent les perspectives nécessaires pour avoir une vision et développer une vision politique cohérente. Donc aujourd'hui pour nous c'est vraiment d'arriver à passer un cap. Je pense qu'il est nécessaire qu'on évolue. Ça nécessite de nouveaux acteurs, de nouvelles têtes, de nouvelles approches, une nouvelle façon de penser aux choses. Et comme on aime bien le dire, hein, il faut casser les codes. Donc on a mis en place une équipe qui est prête à faire ça et qui tous les jours pousse ce message.
Alors on va commencer cette première partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, par vos positions respectives sur des thèmes de société, des thèmes d'actualité. Ça va parfois être assez concret. On va commencer, parce qu'on en parlait dans ce journal ce midi, par la question du nucléaire, le sujet du nucléaire et notamment le cas de la loi Morin, la loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Je vais commencer avec vous, Thierry Luartel. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi d'indemnisation? Est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut la maintenir? Est-ce que quelle est la position de la liste donc de Marcel Touyani sur ce sujet?
Je pense qu'il faut prendre la question ouverte de l'association 93 sur les quatre points clés. On peut difficilement prendre une position juste sur un point. Pour moi, c'est tout un ensemble de dispositions. Déjà, la question du référendum qui doit être posée et plus particulièrement, quelles questions il va falloir articuler. La loi Morin peut être la modifier. Donc, c'est toute une question de nuance, hein, dans les critères d'adaptation, et après voir comment l'État est prêt à prendre ses responsabilités. Donc pour nous il y a plusieurs dimensions.
Alors concrètement comment on fait? C'est-à-dire qu'on discute avec l'État d'abord pour l'instant d'un changement de la loi, mais qu'est-ce qu'on fait pour indemniser les victimes du nucléaire?
Pour nous la première question c'est avant de parler d'indemnisation, c'est de créer le cadre pour que justement toutes ces problématiques liées à Nuglin, donc que ce soit l'indemnisation, que ce soit l'implication de l'État sur tout ce qui est mémorial, abri dans les îles, soit financé de façon correcte. Donc pour nous le point de départ c'est un de prendre la demande qui est très valide de l'association de 193, de voir comment nous on intègre un cadre qui progressivement fait aboutir ces cas.
Et ce cadre, c'est quoi alors?
C'est une discussion avec l'État. Aujourd'hui, c'est par là qu'on commence.
Jérôme Gazior, sur ce même point.
Alors, deux choses. Tout d'abord, pour nous, l'évolution législative ou non, franchement, j'ai l'impression que c'est pas le sujet. Moi, j'ai l'impression que l'État ne tient pas son rôle et ne joue pas le jeu. Donc, on aura beau faire autant de lois qu'on veut, tant que l'État n'assume pas ses responsabilités, ça ne changera rien. Donc, il faut bien sûr avoir une discussion avec l'État. Il faut apporter des dossiers avec des preuves et des liens de causalité bien établis. Et en faire parler, avoir des relais nationaux. Nous, c'est pour ça qu'on se bat et qu'on fait partie d'un parti politique national qui peut relayer ça, parce que c'est très peu connu en France, les gens ne le savent pas. Parfois, on a même l'impression qu'on fait ça juste pour avoir une rente financière, alors que ça serait faux. Donc, on a des dossiers, on a des preuves. Maintenant, il faut le mettre en avant. Il faut communiquer énormément et mettre la pression sur l'État pour que l'État assume ses responsabilités.
Vous avez répondu, vous, l'UPR, à l'appel de l'association 193 en 4 points qui a été diffusé donc la semaine dernière.
Non, alors pas encore, je vais le faire. J'ai vu récemment qu'ils avaient posé la question, mais je l'avais pas reçu. Donc on va répondre rapidement.
On va parler économie un petit peu, on va parler emploi notamment, c'est un thème qui évidemment mobilise énormément pendant cette campagne, l'emploi qui progresse, enfin, en tout cas selon les chiffres de l'emploi salarié marchand de l'ISPF, qui progresse durablement depuis 2014. Est-ce que pour vous, Jérôme Gazior, c'est assez? Et comment on fait pour justement bien résoudre ce problème du chômage qui est quand même beaucoup plus élevé qu'en métropole? Les derniers chiffres, je crois, sur le dernier recensement, on était aux alentours d'un quart de la population, de 25%.
Oui, et chez les jeunes, c'est encore pire, hein, probablement le double. Non, c'est pas assez, bien sûr, parce que si on compte qu'on a créé 3500 emplois sur les, je sais plus, 5-6 dernières années, il faudrait compter combien il y a de jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail, et c'est bien plus. Donc en fait, les jeunes n'ont plus accès à l'emploi. On voit dans les quartiers, dans certaines villes, où il y a la totalité des jeunes qui n'ont pas d'emploi. On est dans une situation catastrophique, donc il faut des plans d'urgence, et il faut...
C'est quoi des plans d'urgence, justement?
Alors, en fait, l'économie, c'est quelque chose qui est assez simple, mais il faut faire les choses dans l'ordre. C'est comme la construction d'une maison, on fait les fondations, les murs et la toiture. Et ça donnerait l'idée de personne de construire la toiture d'abord. Et pour l'économie, les fondations, c'est le secteur primaire, agriculture, énergie. Les murs, c'est tout ce qui est transformation, artisanat. Et la toiture, c'est le secteur tertiaire, les emplois de bureau, le tourisme. Depuis 40 ans, on développe une toiture phénoménale en axant tout sur le tourisme. Tous les ans, on dépense des milliards pour construire des hôtels qui ferment 5 ans après, et ainsi de suite, et on recommence. Donc nous, on dit, on a l'argent pour faire ça, mais faisons dans l'ordre, développons d'abord notre secteur primaire, donc un grand plan pour avoir en plus l'autonomie alimentaire, puisqu'on consomme 85%, on importe 85% de ce qu'on mange, donc il faut qu'on cultive et qu'on produise notre nourriture. On peut créer comme ça 8000 emplois sur les 10 prochaines années.
Thierry Le Hertel, comment est-ce qu'on fait pour relancer l'emploi en Polynésie?
L'emploi, c'est une grande question, hein, bien sûr. Pour nous, quand on regarde l'emploi, il faut d'abord regarder l'état de notre population, l'état de nos jeunes. Hein. Quand on parle de chômage, on partage les mêmes chiffres. Hein, le constat est catastrophique. Il faut aussi voir est-ce que nos jeunes sont bien équipés pour pouvoir prendre un emploi et le garder? Hein, donc nous, de notre point de vue, au niveau, par exemple, d'aides diverses et variées comme le CAE, on a pris une position très claire là-dessus, qui est il faut les recadrer, il faut reprioriser leur usage, et principalement dans les secteurs porteurs pour nous, hein, donc comme Jérôme l'a dit, pour nous l'agriculture, le secteur primaire sont nos atouts. C'est là-dessus qu'il faut construire, mais pas seulement. Le tourisme est aussi l'autre élément différenciateur pour notre économie, et il faut qu'on mise là-dessus. Donc revenons sur quel est le frein à l'emploi. Il y a la partie création d'emploi, mais il y a aussi sommes-nous sûrs que nos jeunes sont équipés pour pouvoir prendre un emploi? Et ça revient sur un axe très important de notre programme, qui est la fondation de la famille, et faire en sorte que nos jeunes puissent avoir les compétences pour pouvoir avoir un emploi. Parce qu'aujourd'hui, hein, ce n'est pas donner un emploi, c'est le gagner. Et notre première mission pour nous, pour que le système se relance, c'est donner les moyens aux jeunes aujourd'hui qui sont peut-être dans la recherche d'emploi ou qui vont prochainement l'être, les moyens d'être équipés pour le gagner.
On va rester sur l'économie. Vous avez tous les deux parlé du tourisme. Le village tahitien, c'est un grand projet donc du pays pour l'instant. Pour vous, Thierry Lhuertel, c'est bien. Est-ce que le Manhattan Beach, c'est mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc pour nous, le tourisme est un facteur
pas
clé.
Pas spécifiquement sur le tourisme, mais sur le village tahitien.
Alors
très
on
concrètement.
Il faut des projets. Hein, il faut des projets pour développer le tourisme. Hein, c'est une question de création d'échanges, de flux. Hein, c'est la base de l'économie. Mais on est plus sur une approche pragmatique, réaliste. Hein, c'est à la fois construisons des projets à une échelle à taille humaine.
Le village tahitien, c'est trop grand.
Pour nous, la façon dans laquelle il est composé. C'est grand, il y a une complexité au niveau de l'implémentation, il y a différents projets qui vont devoir être synchronisés et jusqu'à présent, on a eu du mal à implémenter et aller jusqu'au bout de ces initiatives. Pour nous, il faut revenir sur la base. Hein, notre vitrine touristique n'est pas au niveau auquel elle devrait être. Commençons par papeiter, commençons par développer des sites culturels, refaire le fond de mer pour qu'on ait une vraie vitrine touristique à forte valeur ajoutée.
Jérôme Gazur, ces grands projets comme le village tahitien, comme le Manhattan Beach, est-ce que vous y croyez?
C'est possible que ça dépend dans quelles conditions c'est mis. Simplement, nous on pense que ces grands projets-là qui engagent toute la société, hein, parce que dans certains cas on parle de nous endetter sur 3 générations, il faut que ça soit un choix de société. Donc il faut que ça soit les Polynésiens qui décident s'ils veulent faire ça. Donc nous, pour tout grand projet, tout grand choix de société, on fera un référendum avec un grand débat dans les médias pour expliquer les avantages et les inconvénients, débat contradictoire de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et au final, c'est aux Polynésiens de décider parce que c'est eux qui paieront.
Un autre projet dont on parle, c'est les îles flottantes. Le projet d'îles flottantes, quelle est votre position justement sur ce sujet qui divise quand même beaucoup ici?
Ah, moi, je suis totalement contre. Absolument contre. Parce que, en fait, ça participe d'une idéologie pour milliardaires où on veut avoir des îles avec une extraterritorialité du droit, où il y aurait plus trop de droits, en fait, où ça serait un peu une sorte de société libre, où il y aurait pas de règles, c'est les réseaux sociaux qui feraient les règles, mais ça c'est possible, et ça marche que pour les milliardaires. Mais pour l'essentiel de la population, bon, ils seront là peut-être pour aller nettoyer les toilettes, mais c'est tout, quoi.
Thierry Lhuertel sur les îles flottantes.
Oui, donc la façon dans laquelle le projet est défini aujourd'hui, non. Mais par contre, il y a un élément intéressant dans la réflexion du projet, et c'est l'innovation. Aujourd'hui, pour nous, l'innovation est importante, et si on l'applique dans les domaines dans lesquels on a besoin. Je veux dire, l'agriculture aujourd'hui a besoin d'innovation. Prendre certains aspects de ce projet et les concentrer sur un pôle technologique qui va servir nos besoins essentiels, pour moi ça a du sens. Donc c'est pas donc le projet différent en lui-même, non, mais la nécessité de considérer les innovations, d'ouvrir ces innovations et de les appliquer au domaine de l'agriculture, de la pêche, oui, ça a du sens.
On va changer de sujet, on va parler d'un peu de sujets sociétaux et notamment, je vous en parlais en début d'émission, d'ICE et de stupéfiants. L'ICE qui se développe, on a de plus en plus d'affaires d'ICE, les affaires étaient portées au départ sur de petites quantités, il y en avait très peu chaque année. Là on a quasiment une fois par mois une affaire en comparution immédiate de personnes qui sont attrapées, en tout cas en Polynésie, en possession d'ICE, quand ce sont pas des grosses affaires avec par exemple 18 kilos d'ICE pour l'affaire Kikilov. Comment est-ce qu'on empêche le développement de ce trafic en Polynésie qui prend de l'ampleur visiblement, en tout cas de ce qui ressort des affaires découvertes par les enquêteurs? Jérôme Gazur.
Alors il y a deux choses très importantes à avoir en considération. Tout d'abord, toutes les 7 minutes, on ouvre une procédure de douane. C'est-à-dire que nos douaniers n'ont pas les moyens de contrôler ce qui arrive. Il y a un conteneur ou une procédure toutes les 7 minutes. Nos procédures douanières représentent 20% de l'ensemble des procédures douanières de toute la France. Donc on est en sous-effectif, en incapacité de contrôler. Donc il nous faut des moyens. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a un phénomène de société qui est très important à prendre en compte. C'est arrivé un peu en Islande. En Islande, pendant quelques années, la jeunesse a tombé gravement dans la drogue. Et les Islandais, en fait, ont commandé un rapport, une étude avec des psychologues, pour comprendre ce qui se passait et savoir comment faire. Ces psychologues ont donné un rapport, et en 4 ans, ils ont éradiqué 90% de la consommation de drogue. Donc nous, on veut faire la même chose, prendre ces personnes-là et leur dire, bon, on est des Polynésiens, on n'est pas des Islandais, donc est-ce que vous pourriez adapter votre rapport pour qu'on l'adapte et qu'on le mette en place chez nous? Et donc ça avait très bien marché chez eux, et je pense qu'on pourrait faire ça et que ça marcherait très bien chez nous aussi.
Je reste sur les stupéfiants, sur la question du PACA. Le smoke shop a vraiment fait la une de l'actualité pendant ces derniers jours. Est-ce que vous êtes sur quelle ligne vous êtes, en tout cas à l'UPR? Est-ce que vous êtes pour une dépénalisation, une légalisation, plus de répression au contraire pour la consommation de PACA?
Nous, on est pour le respect des lois. Maintenant, pour les grands thèmes de société, comme on l'a dit, on pense que c'est au peuple de décider et que ça doit être réglé par référendum. Hein, et notamment, bon, pour les questions thérapeutiques, cette question doit être posée. Et pour les activités récréatives, ça peut être posé aussi. Il faut que ça soit le peuple qui le demande et qui le tranche.
Est-ce qu'il fallait fermer le smoke shop, selon vous?
Oui, là, dans la mesure où on détourne la loi pour faire quelque chose, tant que la loi n'est pas passée, on respecte la loi. Thierry, si après on décide de la changer, on la change. Mais...
Thierry Le Hartel, je voulais vous entendre donc sur l'ICE et sur les questions de drogue dure, hein, qui touche le fainois.
Bien sûr. Donc pour moi, la notion d'augmenter les contrôles, ça a beaucoup de sens, c'est pragmatique. Mais il faut revenir sur le problème, une des causes à cette nouvelle tendance. Pour moi, je reviens sur un élément essentiel qui est la fragilisation des familles. Aujourd'hui, on a les jeunes sont complètement perdus. Les jeunes sont complètement perdus, qui amènent bien sûr à consommation de drogue, à des comportements qui, en fait, leur ont fait perdre leur valeur. Et pour nous, bien sûr, il y a cet axe de contrôle, de meilleur de contrôle des arrivées, mais c'est avant tout de rééduquer notre jeunesse. Aujourd'hui, c'est là qu'il y a un besoin fondamental, c'est leur donner les outils pour qu'ils reprennent de la dignité, pour qu'ils reprennent confiance en soi, pour qu'ils se sentent intégrés dans un système. Et parce qu'aujourd'hui, c'est cette déconnexion qui les fait égarer sur l'autel. Donc, pour nous, il y a deux leviers. Il y a la partie contrôle, mais aussi la partie responsabilisation, éducation, valeur, pour qu'on fasse changer ses comportements. Aujourd'hui, notre problème est profond. Il faut un choc pour que ça avance, et une prise de conscience de tous que voilà, on est à la dérive. Il faut qu'on reprenne un cap, et c'est notre rôle, et dans notre programme, c'est ce qu'on essaie d'articuler, de donner une plateforme, de donner les moyens pour qu'ils puissent retrouver un cap.
On reviendra en deuxième partie plus spécifiquement sur les propositions que vous faites sur la famille, notamment, qui sont un axe fort dans votre profession de foi. Sur la question du smoke shop, particulièrement, selon vous, il fallait le fermer aussi?
Non, sachant que bon, là, il y a une loi, une loi respectée, pour moi, ça me paraît justifié.
Un thème de société tout bête qui tombe un peu comme ça, la question du bruit, puisqu'on en a parlé cette semaine, les nuisances sonores. Il y a une association, donc Teorahou, qui a appelé, en fait, hein, qui a distribué un manifeste à tous les candidats en lice pour les prochaines territoriales. Est-ce que c'est un sujet, est-ce que ça doit devenir un sujet majeur de cette campagne, la question des nuisances sonores, Jean Gazior?
Alors, je suis en train de préparer ma réponse aussi. C'est un sujet à prendre en compte, c'est évident. Ça crée le bruit crée beaucoup de problèmes de société, et ça peut avoir des conséquences importantes sur la santé. C'est à prendre en compte. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que ça doit être mis pour l'instant.
On demande que ce soit un grand thème de campagne, défini comme un grand thème de société, en tout cas pour les 5 prochaines années après les territoriales. Pour vous, c'est pas forcément le cas?
Ben, on a déjà tous les problèmes de drogue, de violence, de chômage, d'emploi.
Les gens, ça passe après.
Ben, je me dis, la priorité aujourd'hui, ce que je vois dans les rues, c'est je veux un emploi, je veux avoir de quoi manger, quoi. Donc bien sûr que c'est un problème important, mais il faut arriver à prioriser. Déjà, avoir un emploi et pouvoir manger, c'est plutôt ça à traiter en premier.
Thierry Le Hartel, les nuisances sonores, est-ce que c'est une priorité de Théorapie?
Bon, certains, les plaintes, on les a entendues, même pour certains, les ont vécues, mais les priorités sont ailleurs. Pour moi, aujourd'hui, quand on regarde la qualité de vie, le bien-être de chacun, il y a d'autres aspects critiques et clés qui auront la priorité, hein, que ce soit le transport scolaire, que ce soit l'emploi et des besoins de base. Donc, certes, on peut l'attaquer en temps et en heure, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres priorités beaucoup plus critiques pour le pays.
En parlant justement des priorités de la campagne et des thèmes de campagne, l'environnement semble assez peu présent, encore une fois, de la campagne des territoriales. Est-ce que vous proposez des choses, vous, sur l'environnement, Thierry Le Hartel, sur les théorapies?
L'environnement, c'est il fait partie du plan, c'est la colonne vertébrale du plan. Parce qu'aujourd'hui, hein, quand on regarde le plan, on parle de tourisme, on parle d'agriculture. Pour moi, un tourisme ne peut pas prendre son essor si on n'a pas une politique environnementale forte. Donc c'est pas juste une question de mesure, c'est faire en sorte qu'il y ait cette réflexion à travers tous les axes de développement. Tous les axes de développement du programme. À titre d'exemple, pour nous, dans notre développement économique, on a commencé à réfléchir à cette charte de performance qui va demander aux entreprises de respecter des règles éco-citoyennes, des règles de développement pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Donc ça, c'est juste un exemple pour démontrer comment l'environnement est intégré dans le programme. Mais pour moi, c'est une réflexion, c'est plus qu'une réflexion, c'est un élément clé de notre développement.
Jérôme Gazur, pour vous, l'environnement est assez présent dans la campagne territoriale ?
Dans notre programme, en tout cas, oui, c'est un axe clé. Comme on veut développer la permaculture et cultiver les pentes, la permaculture permet de protéger les lagons. Quand vous regardez des fois les lagons qui se retrouvent tout marrons parce qu'on a construit des lotissements ou que les terres s'effondrent, en cultivant en permaculture, on retient l'eau. Et du coup, il n'y a plus de terre qui va dans les lagons, parce que vous savez que les terres ou tous les eaux grises, c'est très riche en nutriments. Donc ça fait que les algues le mangent et puis elles détruisent la barrière de corail. Et c'est comme ça qu'on perd nos lagons. Donc nous, on veut protéger nos lagons, augmenter la propreté, interdire les sacs plastiques à horizon 10 ans. On a tout un tas de mesures concrètes. Enfin, comme d'habitude dans notre programme, c'est plus des mesures concrètes. Et l'environnement, il tient une très grande place.
On va parler politique à présent avec un sujet qui également revient régulièrement sur le devant de la scène. C'est celui de la probité des élus. Jérôme Gazur, vous disiez donc sur votre liste notamment, vous ne laissez pas donc la place à des personnes qui ont été condamnées, des personnes qui étaient condamnées pour des atteintes à la probité. Pour vous, est-ce que ça doit être, est-ce qu'il faut aller plus loin? On a beaucoup parlé pendant la campagne des présidentielles de l'inéligibilité, enfin en tout cas de la moralisation de la vie publique avec la possibilité de l'inéligibilité à vie des élus condamnés. Ça, pour le coup, c'est une proposition de loi d'un des députés polynésien, Motei Brotherson. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous pensez qu'il faille aller sur la question de la probité des élus?
Nous, en fait, au niveau de l'UPR, qui a été créé par François Asselineau il y a 11 ans, c'est un sujet majeur depuis le début. Donc, nous, ça fait 11 ans que c'est dans nos programmes et dans notre ADN. On ne comprend pas pourquoi. Moi, par exemple, dans ma profession, il faut que je produise un casier judiciaire vierge tous les ans. Alors que peut-être ma profession est moins importante pour la société qu'un élu de conseiller en investissement financier. Alors qu'un élu a un rôle primordial pour la société. Donc comment ça se fait que moi je dois avoir un casier judiciaire vierge pour exercer et pas les élus qui ont pourtant l'avenir de la société dans leurs mains. Donc bien sûr qu'il faut un casier judiciaire vierge. Il faut aussi qu'on n'ait pas d'élu professionnel. Ça doit être une vocation, un sacerdoce, mais c'est un CDD, c'est pas un CDI. Donc deux mandats maximum. Et ne pas cumuler d'être Tavana et être élu à l'Assemblée en même temps, puisque du coup, si on est Tavana, on est obligé d'être à l'Assemblée pour défendre sa commune, et puis si on a une liste, on est obligé de prendre des Tavana pour avoir les voix de la commune. Et donc ça crée un système qui s'auto-entretient, qui n'est pas sain. On doit s'occuper soit de sa commune, soit du territoire. Et il faut savoir à quel niveau, à quelle échelle on veut intervenir. Donc il faut pas cumuler non plus les mandats et en faire deux maximum.
Thierry Luartel, le non-cumul des mandats, ou en tout cas l'inéligibilité à vie des élus condamnés pour des atteintes à la probité, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle chez Théorapi?
Non, tout à fait. Hein. Quand dans le programme, on parle de renouveau politique, ce qui veut dire qu'il faut mettre une nouvelle structure pour qu'une classe de jeunes, un renouveau se fasse. Pour nous, la limitation des mandats à deux termes nous paraît cohérente pour pouvoir amorcer cette transition et faire en sorte qu'il y ait un renouveau de façon constante. Au sujet de l'inégibilité à vie, pour nous, si quand on regarde la loi, une fois qu'une peine est purgée, après récupérer ses droits civiques nous paraît normal. Donc voilà, c'était un peu extrême. De toute façon, ça a été retoqué quand on était
passé. Quelqu'un qui détourne des fonds publics, qui est condamné pour ça, qui purge sa peine, mettons 3 ans, et qui après il peut de nouveau être élu. Et vous trouvez ça normal?
On parle de cette notion d'inéligibilité, donc
oui, c'est ce que je veux dire.
Il y a différents degrés de toute façon de peine. Mais bon, pour nous, si l'élu, en fonction du degré de peine, il aura la capacité à récupérer tout au moins ses droits civiques. Parce qu'on parle de plus droit de vote. Un avis pour
non,
un
non, élu. On parle d'éligibilité. Quelqu'un qui détourne 300 millions de francs, par exemple, est-ce qu'après, une fois qu'il a purgé sa peine, il peut de nouveau être élu?
Non, parce que la question sur l'éligibilité, oui. Sur la perte des droits civiques et des droits de vote, non.
Si je comprends bien, pour vous, Thierry Martel, ça veut dire qu'une personne peut récupérer son éligibilité à la fin de sa peine et qu'il est totalement normal qu'elle puisse se présenter par la suite à une élection.
Non, qu'il ne perde pas ses droits civiques. Parce qu'on parle de perte du droit de vote. Hein.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Il est 12h37. Je vous l'avais dit, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler plus spécifiquement de vos programmes, des annonces et donc des promesses de nos invités.
Radio 1, Territorial 2018. Les Territoriales 2018. Les grands débats.
De retour avec Antoine Samoyau et ses invités.
Voilà, toujours dans ces grands débats de Radio 1 et Thierry FM, en direct donc sur nos deux antennes et puis en direct en live sur Facebook, avec Jérôme Gazior, tête de liste de l'UPR, et puis Thierry Le Hartel, secrétaire général de Théora Apiopolinati, à la liste de Marcel Touyani. Dans cette deuxième partie, je vous l'ai dit, messieurs, on va parler de vos programmes, des promesses de campagne, des propositions que vous faites spécifiquement. On va commencer avec l'UPR sur une question qui va peut-être un peu faire la transition avec la première partie. C'est une question du statut. Sur le site de l'UPR, on peut dire que vous essayez de rassembler en dehors du clivage autonomie indépendance. Avant-hier, on a entendu donc Monsieur François Asselineau, le président de l'UPR, parler d'une autonomie renforcée. Où est-ce que vous vous situez exactement sur cette question de l'autonomie et de l'indépendance?
En fait, sur notre liste, nous avons à la fois des indépendantistes et des autonomistes, puisque notre position, c'est que l'urgence aujourd'hui n'est pas l'évolution statutaire. L'urgence, c'est nous on se bat contre la pauvreté et les dérèglements de la société. Maintenant, nous sommes inscrits sur la liste des pays à décoloniser, donc il y a un processus de l'ONU qui suit son cours. Nous, on respecte les règles du droit international, donc on laisse le processus se passer normalement.
Mais quand on parle d'autonomie renforcée, ça veut dire qu'on est quand même plutôt d'un côté que de l'autre.
Non, alors l'autonomie renforcée, en fait, il faut voir que en Polynésie, nous sommes dépendants d'énormément de choses, y compris ce qu'on importe en matière. Enfin, on produit presque rien. Donc, il faut avoir déjà notre autonomie au niveau individuel, au niveau local, et aussi au niveau culturel. C'est-à-dire qu'on puisse affirmer et développer notre culture et notre identité polynésienne de façon plus importante. Et donc, dans la relation avec l'État, comme le disait François Asselineau, l'État ne doit pas s'immiscer dans ces domaines-là et doit par contre nous aider pour tout ce qui est militaire, protection de la zone économique, niveau social, niveau de vie, etc. Mais pas dans tout ce qui est notre autonomie à la fois alimentaire, culturelle, financière.
Thierry Le Hartel, est-ce que vous pensez qu'on peut dépasser le clivage autonomie-indépendance? Il y a des listes qui ont essayé de le faire, en tout cas au territorial ces dernières années. On se rend compte quand même que les trois grands blocs arrivent en tête des élections territoriales et ont une position qui est très qui est assez marquée sur la question du statut, en tout cas.
Oui, mais de toute façon, ce sont leurs positions historiques et je vois ces plateformes ne vont pas changer. Je pense que c'est là que des nouveaux partis comme Théora Happy ont une opportunité de justement d'amener une autre approche, une approche dans laquelle peuvent venir s'insérer des bonnes idées, hein, qui viennent de tous bords. Aujourd'hui, la compétence et les bonnes idées n'ont pas de couleur.
Hein, et quand on voit les scores de ces partis, par exemple, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une place pour une espèce de ces listes-là qui disent nous sur cette question du statut, en tout cas autonomie-indépendance, on ne veut pas se prononcer?
Non, au niveau du statut, pour nous, donc le changement de statut n'est pas la priorité. Hein. On a d'autres problèmes à résoudre. Par contre, renforcer le dialogue avec l'État et faire évoluer nos relations en faisant aboutir certaines problématiques qui sont cette problématique de protection de l'emploi local, de pouvoir récupérer quelques compétences au niveau de l'éducation pour qu'on puisse faire évoluer notre système et l'adapter à nos besoins.
Alors, aujourd'hui, si je résume quand même, parce que c'est un peu votre position à tous les deux, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas de position sur le débat de autonomie ou indépendance, mais restons autonomistes.
Pour l'instant, nous, on ne pousse pas pour l'indépendance. Autonomiste, oui, mais avec une relation renforcée avec l'État.
Jérôme Gazior.
Ah, j'ai l'impression de m'entendre parler quand j'entends Thierry. Donc
on est d'accord, donc c'est très bien.
Ceci dit, non, la différence c'est que le statut actuel, il nous permet énormément de choses qu'on n'utilise pas. On a des compétences territoriales qu'on n'utilise pas. Quand on voit, par exemple, j'entendais tout à l'heure dans le répondeur avec les lois arrêter de fumer et tout, le prix de l'amende quand on fume dans les lieux publics, c'est 54 432 francs, je crois, un truc comme ça. Parce que les élus, la loi est arrivée de France, ils ont transposé, il y a quelqu'un qui a converti 450 euros, combien ça fait en francs, et ils ont même pas réfléchi si c'était adapté pour la Polynésie ou pas. Mais cette loi, elle vient aller voter localement. Mais on réfléchit pas, on transpose des lois qui viennent de France. Donc utilisons notre statut pour faire des lois adaptées pour la Polynésie, puisqu'on en a les compétences, mais on l'utilise pas.
On va parler de la monnaie justement, puisque vous sautez sur le sujet. C'est un des axes de campagne. Et puis promis, après on en fait deux pour Théo Rappi. Parce que je veux faire la transition là-dessus. Vous, ce que vous demandez, c'est un changement de monnaie. En tout cas, ne plus indexer le franc sur l'euro. Parce que au niveau national, vous demandez la sortie de la zone euro, évidemment. Comment est-ce que c'est possible et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la Polynésie?
Non, alors on veut pas changer la monnaie, on veut en rajouter une deuxième. C'est-à-dire qu'on prend le modèle qui existe en Suisse. Les Suisses ont deux monnaies. Ils ont le franc suisse, qui est accès pour tout le monde, comme nous on aurait le franc XPF, enfin le franc CFP. Et ils ont le franc VIR, W-I-R-E, qui est réservé aux Suisses entre eux. Ça a été créé en 1934 pour se protéger de la crise. L'idée, c'est que des multinationales étrangères qui viennent faire des bénéfices sur le territoire ne les rapatrient pas à l'étranger, mais les réinvestissent sur le territoire. Par ailleurs, notre monnaie, bon, le franc actuellement, il est trop élevé pour nous. Il est trop élevé puisque c'est le même que l'euro au final, et l'euro c'est la monnaie des Allemands. Et c'est des gens très bien, c'est pas la question, mais ils vendent des Mercedes, des machines à outils, où il y a que eux qui savent faire, donc ils peuvent faire des prix très élevés. Nous on ne peut pas. Leur PIB, leur richesse créée, c'est 6 millions de francs par an par habitant, nous c'est 2 millions de francs. Donc on devrait avoir une monnaie adaptée à notre productivité. Je donne juste un exemple pour qu'on comprenne bien, parce que les phénomènes monétaires sont pas bien compris en général. C'est comme si on courait un 100 mètres, et la monnaie, c'est la taille des chaussures. Les Allemands, ils chaussent du 38 et ils ont des baskets en 38. Nous, on chausse du 45 et on nous met des baskets en 38. Donc, on court plus difficilement.
Thierry Le Hartel, qu'est-ce que ça vous inspire, ces chaussures en 38 ou 45?
L'idée est intéressante, mais par contre, l'implémentation, on a plus une approche, c'est... Quand on regarde nos mesures, il faut des mesures fortes, phares, mais il faut essayer aussi être très pragmatique sur qu'est-ce qu'on envoie pour implémenter et quel est le schéma de transition. Donc nous, on n'a pas fait l'étude, j'imagine que Jérôme l'a faite avec son équipe. Pour l'instant, je suis neutre sur cette idée, donc on n'a pas fait l'analyse.
On va parler justement des idées de Théo Rappi-Nopolinetti. Je cite votre profession de foi. Vous voulez, pour en tout cas relancer sur la question de l'économie, pour relancer l'économie, doper la commande publique, continuer les CAE notamment sur l'emploi. Est-ce que c'est pas un peu des vieilles recettes?
Alors, c'est prendre un vieil outil, mais l'utiliser d'une meilleure façon. Hein, quand on parle de CAE, aujourd'hui, on parle d'emplois qui n'ont jamais été convertis. Hein, c'est la réalité aujourd'hui. Hein. Quand on voit la majorité des CAE alloués à l'administration, avec peu d'opportunités de conversion, c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Hein, ça a été un outil, je dirais, plus politique que de production de l'emploi. Donc pour nous, quand on regarde ce budget et quand on regarde les besoins, le secteur primaire et le tourisme sont des secteurs que l'on souhaite développer. Ils sont vraiment pour nous les atouts de la Polynésie. Donc réallouer les CAE dans ces secteurs prioritaires avec l'idée derrière de motiver et de créer des opportunités de développement pour les jeunes dans des secteurs nécessaires à notre développement économique. Donc ça, c'est un peu la réflexion sur les CAE.
Sur la commande publique, de la même façon, vous pensez vraiment que le salut économique de la Polynésie passe forcément par encore plus d'investissement public?
Elle est nécessaire, on n'a pas le temps. Moi, j'ai assisté à une conférence économique il y a quelques jours où on parle de... Ok, il nous faudrait, avec 1% de croissance de PIB, 65 ans pour doubler notre économie. On n'a plus le temps. Donc aujourd'hui, il faut qu'on actionne ces leviers de façon décisive, et la commande publique est un des leviers que l'on peut appliquer. Il faut le faire sur des projets clés, mais aussi en jouant tous les leviers à la fois. Hein. Quand on regarde l'administration et les freins au développement économique, il faut aussi jouer
et
là-dessus.
Et simplifier notamment les procédures administratives. Et simplifier. Mais ça, c'est pour le privé, pour le coup. Voilà. Juste, ouais, Jérôme Gazur, sur le fait de doper la commande publique, de relancer les investissements publics pour permettre le est-ce que c'est ça qu'il faut pour l'économie de la Polynésie?
Non, je pense pas. Quand quelqu'un a faim, on a deux solutions. Hein. Soit on lui donne un poisson, soit on lui donne une canne à pêche et on l'apprend à pêcher. Moi, je pense que de développer encore la commande publique, parce qu'elle est déjà à un niveau très élevé chez nous, hein, la développer encore, c'est plutôt donner un poisson que de donner une canne à pêche. Donc, on est à un niveau très élevé de commande publique. Si on continue à l'augmenter, ça veut dire qu'on continue à augmenter les impôts, et notre productivité ne nous permet pas d'assumer des charges et des normes encore plus élevées. Donc, ça se retournera contre nous si on fait ça.
On fait quoi alors du coup? On développe le privé, mais comment?
En développant le secteur primaire.
Comment est-ce qu'on apprend à pêcher, justement, ouais, par le secteur primaire?
Grand plan. Grâce aux techniques de permaculture notamment, on peut produire beaucoup sur des petites surfaces. Hein, je cite souvent l'exemple de la ferme de Tipapa à Arouet. Sur 300 mètres carrés, la première année, ils ont produit 900 kilos de légumes, et la deuxième année, 2 tonnes. Donc on peut produire en pente, sur des petites surfaces, beaucoup. En cultivant 2000 hectares, on peut arriver à l'autonomie alimentaire avec 4 personnes qui travaillent par hectare. Et j'ai calculé un chiffre d'affaires à peu près, si on transforme pas les produits mais qu'on les vend comme ça, de 12 millions de francs par hectare. Donc on fait un grand plan, on va former les gens, on va leur donner un capital de départ pour qu'ils puissent s'installer, et on les formera en continu pendant 3 ans. Et on les accompagnera pendant toute la période où ils créent leur activité. Donc on crée 8000 emplois comme ça, plus les emplois indirects, de transformation, de distribution, de commercialisation, etc. Donc là, déjà, on a un axe fort. Hein. Le deuxième, on veut aussi développer tout ce qui est l'énergie, l'autonomie énergétique. Et là aussi, on a de l'emploi à créer, des ressources à créer. Et on a un troisième point qui est tout ce qui est à forte valeur ajoutée. Parce que dans le secteur primaire, on a plein de choses qui valent très cher et qu'on n'exploite pas assez. Bon, on connaît le problème avec la vanille, mais il y a aussi les longilongues et le vétiver. Hein, pour la parfumerie, les longilongues, c'est 200 000 francs le litre. Et on a un coquillage, le cône du Pacifique, qui a un poison, la mucronotoxine, enfin le mollusque a un poison. Et ce poison, cette toxine, ça vaut plus de 50 milliards le kilo. Et en ce moment, il y a une pénurie mondiale, il en manque 3 à 4 kilos par an. Donc on veut créer une filière, organiser une filière pour extraire ce poison et le commercialiser, c'est demandé pour la neurochirurgie. 50 milliards le kilo, on voudrait bien en produire 1 kilo par an.
Merci,
ça ferait du travail et des revenus pour tout le monde.
Je change totalement de sujet, je prends un point spécifique encore une fois du programme de Teora Api, c'est la question de la protection de l'emploi local. Ce que vous dites, c'est qu'à niveau de diplôme en tout cas égal, il faut choisir un Polynésien par rapport à une personne qui viendrait de métropole par exemple ou un étranger.
Oui, c'est notre position. Quand on regarde ce qui s'est fait en Nouvelle-Calédonie, hein, compte tenu de leur situation, on pense qu'il y a une base pour que les mêmes changements soient applicables en Polynésie. Aujourd'hui.
Et Jérôme Gazur, vous en pensez quoi justement de cette mesure juste de protection de l'emploi local?
Faudrait définir ce que c'est polynésien. Je sais pas.
Alors allons-y, comment est-ce qu'on définit ce qu'est un polynésien justement?
C'est breton le Hertel ou c'est polynésien?
Breton polynésien, né en Polynésie, d'origine polynésienne, oui.
D'origine polynésienne ou né en Polynésie, ça veut dire quoi?
Né en Polynésie
uniquement.
Moi je pense qu'il y a des secteurs effectivement où on fait venir des cadres expatriés pour 2-3 ans et puis ça tourne et ainsi de suite, où là, bien sûr, il faudrait employer des Polynésiens. Il y a des postes réservés comme ça qui n'ont pas lieu d'être. Sinon, j'ai pas l'impression qu'il y ait une ségrégation particulière parce que, moi je vois dans les entreprises, on regarde les compétences d'abord. Donc il faut plutôt monter en compétences sur les secteurs où on a besoin. Et puis il faudrait voir dans quelques grands groupes qui eux prennent des cadres expatriés où là effectivement il y a quelque chose à faire.
On ne parle pas d'écart en compétences. Hein, on parle de Polynésiens qui ont le même niveau de compétences.
Bien sûr, on parle à niveau de diplôme égal.
Mmh. Mais à niveau de diplôme égal, je crois pas qu'il y ait cette ségrégation-là, ou sauf peut-être dans quelques entreprises, parce que un expatrié coûte beaucoup plus cher. Parce que le contrat d'expatrié, il y a des charges en plus, il y a le transport, il y a tout à payer. Donc si on a le même niveau de compétence, à moins que le chef d'entreprise soit débile et qu'il préfère perdre des sous, je vois pas pourquoi il ferait ça. À moins qu'il soit raciste ou je sais pas. Donc il faudrait regarder vraiment s'il y a ça, mais sauf je pense dans quelques grands groupes qui sont des groupes nationaux où ils font tourner des cadres, là ça arrive, mais sinon je suis pas sûr de ça.
Bien sûr, on va s'arrêter là, on est pris par le temps, je vous l'avais promis, vous allez avoir une minute chacun pour résumer un petit peu, une carte blanche pour résumer votre promesse de campagne. Jérôme Gazian, on vous écoute pour l'UPR donc.
UPR, donc merci déjà à tous pour ce débat. Hein. Donc nous, c'est simple, nous voulons avoir des mesures pragmatiques. Vous avez remarqué que j'ai parlé beaucoup sans idéologie, mais avec des choses qu'on peut mettre en place demain si on est élu. Pour gérer l'urgence, remettre les choses dans l'ordre, toujours cet exemple de la maison, on va commencer par les fondations, les murs, la toiture, et avoir une large concertation au niveau de la population, avec des référendums, où on ne fera pas des choses qui les engagent sans demander leur avis à la population.
Thierry Le Hertel, secrétaire général de Te Orapio Polignetti, la liste de Marcel Touyani.
Merci à Jérôme. Donc pour nous la clé de cette transformation, ça va être la reconstruction de la famille. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'élément essentiel pour que l'on puisse recréer notre cohésion sociale, redonner confiance à une population qui en complète une dérive et asseoir une nouvelle fondation pour reconstruire notre économie. Pour nous, c'est pas une transition sur un an, deux ans, trois ans, c'est une transformation sur 5-10 ans qui sera nécessaire. Mais c'est celle qui va assurer la pérennité de notre société.
Donc, il est 12 heures.
N'oubliez pas de voter.
Je vous ai coupé juste avant. Il est 12h en tout cas, 57 minutes. Merci à vous, messieurs Jérôme Gazior et Thierry Le Hertel, pour ce premier donc des grands débats de Radio 1 et Thierry FM, émission à retrouver sur Internet. Merci beaucoup à Vaitora Ipambrin pour sur la page Facebook donc de Radio 1. La semaine prochaine, ce sera le Tahoera et le Tapura qui seront avec nous, avec Jeffrey Salmon et Nui Haoulere qui pour l'instant ont confirmé leur présence pour ce débat. Je laisse l'antenne. Merci beaucoup à Thierry Hazard qui s'est occupé également de la technique de l'autre côté de la vitre. Et je vous souhaite un très bon appétit à tous. Retour de l'info, c'est à 15h30 sur Radio 1 et sur Thierry FM.
Radio 1, Territorial 2018. Les grands débats.